Le dernier matin, par Francis Beeding. Bert Higgins enfila son pantalon et regarda autour de lui en quête de son collet de sa cravate. La cellule des condamnés était relativement confortable mais obscure. Il y avait du feu dans la grille de la cheminée et c'était là un luxe auquel Bert Higgins n'était pas habitué. C'était ses propres vêtements qu'il était en train de mettre, le complet croisé de serge bleu qu'il avait porté durant son procès. On les lui avait retirés après sa condamnation pour lui donner l'uniforme de la prison, mais ce jour-là, on les lui avait rendus. Cela voulait dire, bien entendu, que la grâce était enfin arrivée. Elle avait dû parvenir à la prison durant la nuit, mais Bert, sourcil ou pas sourcil, ne pouvait pas sortir dans la rue sans col ni cravate. « Mon col, dit-il, où est mon col, Joey ?» Joey était un chic type, beaucoup plus gentil que l'autre gardien, Mike. Joey se détourna, d'un air un peu embarrassé, et regarda la fenêtre. Mais comme les vitres de celle-ci étaient en verre dépoli, il ne devait pas voir grand-chose. « Tu n'auras pas besoin d'eux, » dit-il. « Pas besoin d'eux, » commença Bert, amorçant une protestation. Mais il s'interrompit et sourit. Joey, de toute évidence, était victime d'un malentendu. Joey croyait que lui, Bert Higgins, allait être pendu, ce qui était absurde, ridicule. Seuls les assassins sont pendus, et Bert n'était pas un assassin, il était innocent. Ce n'était pas lui qui avait fait le coup et un homme n'est pas pendu quand il n'a rien fait. « Y a-t-il quelque chose dont tu as envie pour ton petit déjeuner, Bert ?» C'était Joey qui venait de parler. Il faisait une mine longue du nonne. Bert, fort de sa connaissance de la justice anglaise, eut pour lui un sourire rassurant. « Pour mon petit déjeuner, j'avoue que j'ai plutôt faim. Est-ce qu'il pourrait me préparer un steak avec des pommes chips ?» Joey le regarda un instant en silence. « Je vais aller voir ce que nous pouvons faire, mon vieux, » répondit-il enfin. Il s'approcha du guichet ménagé dans la porte, et en ayant fait glisser le volet de côté, il échangea quelques mots avec quelqu'un se trouvant à l'extérieur. « Ça sera prêt dans 10 minutes, » annonça-t-il en se retournant. « Parfait, » dit Bert. « N'auriez pas une sèche sur vous, Joey ?» Joey, silencieusement, lui tendit un paquet de Gold Flakes. Bert en alluma une et se pencha pour nouer ses lacets. Pourquoi ne se grouillait-il pas un peu plus pour le libérer? C'était cruel de maintenir un homme en attente comme ça. Une supposition, par exemple, qu'il était un de ces types particulièrement nerveux? Eh bien, il serait maintenant en train de broyer du noir, de s'imaginer des choses. Il était déjà plus de 8 heures. Il serait sûrement parti avant 9 heures. Bert sourit de nouveau. Il n'était pas coupable. On ne pouvait pas le prendre puisqu'il n'avait rien fait. On ne pouvait manquer de le libérer. Machinalement, Bert enfila sa veste. Que ferait-il une fois hors de prison? Inutile de retourner à la maison. Amy était morte. C'était vraiment la seule chose qui l'ait troublé durant tout le procès. Une chose bien pire que tout ce qui lui était arrivé depuis son arrestation. Pire que le moment où le vieux bronze en perruque et robe rouge avait mis ce ridicule bout de drap noir sur sa tête pour lui annoncer qu'il serait pendu par le cou. Il n'y avait pas à sortir de là. Il aimait Amy. Il l'avait toujours aimée. Et elle allait terriblement lui manquer. Ce n'était pas la faute d'Amy, s'il était un peu bolage. Pas plus que ce n'était celle de Bert, s'il ne pouvait s'empêcher d'aller boire un coup, et parfois plusieurs, au rendez-vous des amis. D'ailleurs, il n'y avait rien eu de grave au fond. Elle n'avait pas fait de mal. Et bien sûr, jolie comme elle était, elle ne manquait pas d'occasion tentante. Oh oui, elle était jolie. Amy était exquise comme une rose de Covent Garden, toute une botte de roses. Le pasteur qui les avait mariés avait dit n'avoir jamais vu un couple si beau. Comme ce souvenir lui traversait l'esprit, Bert s'arrêta devant le miroir et se mit à peigner ses cheveux avec grand soin à l'aide de son peigne qu'il trempait dans la cuvette. Il avait conquis Amy, de haute lutte mais loyalement, l'emportant sur tous ceux qui se pressaient autour d'elle, y compris George, qui bientôt se trouverait où lui, Bert Higgins, était en ce moment. Car c'était George, le coupable, et pour lui, il n'y aurait pas de sursis. George avait commencé en les emmenant tous les deux au cinéma, puis ensuite dans un petit restaurant. Et les choses avaient marché ainsi jusqu'au jour où, s'en revenant d'avoir été chercher du travail, il avait trouvé George et Amy ensemble dans le salon. Ils étaient assis sur le sofa. Aussi, ce soir-là, avait-il eu des mots avec Amy, et Amy avait été insolente. Alors, il l'avait giflée, et elle lui avait jeté la casserole à la figure, ce qui lui avait causé le plus bel œil au beurre noir qu'on ait jamais vu. Mais quand Ami avait constaté cela, le lendemain matin, elle s'était mise à pleurer et l'avait embrassé. Puis elle était sortie acheter un bout de viande pour qu'il se le mette sur l'œil. Et Bert avait dit qu'il devrait le manger. Et ils avaient ri. Ami était prompte à s'emporter. Était. Un sanglot se noua dans sa gorge. Mais il parvint à le maîtriser et à ce moment la porte de la cellule s'ouvrit. C'était Mike avec le petit déjeuner. Bert s'assit et commença de manger. Mais son esprit n'était pas à ce qu'il mangeait, bien que le steak fût excellent. Il s'était remis à penser à sa dernière querelle avec Amy. Non point à cause de George, cette fois, mais pour une chose tout à fait ridicule. Le genre de chose qui amorce les disputes dans les sketchs que l'on voit au music hall. Il ne pouvait même plus se rappeler de quoi il s'agissait. Pourtant, il n'oublierait jamais ce samedi soir. Il s'en souviendrait jusqu'à son dernier jour. Enfin non, peut-être pas quand même. Il n'avait que 24 ans. Et il n'y avait aucune raison pour qu'il ne vive pas jusqu'à 70. Après sa libération. De nouveau, Amy s'était montrée violente et il avait levé la main sur elle, mais il n'avait pas l'intention de la frapper. Cette fois, c'était la cafetière qu'elle lui avait jetée, mais il l'avait esquivée et elle était allée frapper le mur avec fracas. Alors Bert avait tourné les talons et était sorti faire un tour en dépit du brouillard. Cela avait été sa première malchance. Personne ne l'avait vu quitter la maison. Il s'était dirigé vers le rendez-vous des amis. Mais cela lui avait pris un bon moment, tellement le brouillard était épais. Là, il avait commandé un verre, puis on sait bien ce que c'est, une chose, une autre. Bref, il avait pris plusieurs verres et son copain Harry, sympathisant avec lui, avait versé du gin dans sa bière en lui suggérant de rentrer flanquer une bonne trempe à Amy. « Bert, mon vieux, lui avait-il dit, ce qu'elle a besoin, c'est d'être bien tenue en main. » Il s'était donc remis en route, avec l'intention de donner à Amy ce qu'elle méritait. Mais il lui avait fallu une demi-heure pour rentrer chez lui. Une demi-heure pour aller du rendez-vous des amis à Westbury Terrace, alors qu'il n'y avait guère que 5 minutes de marche entre les deux. Personne, bien entendu, n'avait voulu le croire. Et moins que tout autre, ce vilain petit homme au nez de travers qui dirigeait l'accusation. Pourtant, quoi de plus naturel? Il avait traîné une demi-heure dans les rues, avant de se décider à aller flanquer une trempe à Amy, et puis quand enfin il était rentré. Bert repoussa la tasse de thé qu'il n'avait pas achevé de vider. Il n'éprouvait soudain plus aucun appétit. Il voyait encore Amy étendue dans la chambre à coucher, en haut, avec la tête ouverte et une bouteille de bière brisée à côté d'elle. Il se souviendra de ça jusqu'à sa mort. Jusqu'à sa mort. Il avait ramassé la bouteille et à ce moment-là, les flics étaient arrivés. C'était un voisin, le vieux Green, qui était allé les chercher. Le vieux Green avait entendu la dispute plus tôt dans la soirée et il n'avait vu le prévenu c'était lui, Bert Higgins, ni quitter la maison ni revenir. Le vieux Green avait juré avoir entendu déjà plusieurs disputes du même genre. Il avait témoigné devant la cour que Amy et Bert Higgins étaient en mauvais termes, ce qui était un mensonge. Il avait toujours été dans les meilleurs termes avec Amy. En mauvais termes, non, mais vous vous rendez compte. Personne n'avait vu George entrer dans la maison ou en repartir, mais c'était uniquement à cause du brouillard. George, bien entendu, avait dû venir pendant que Bert était au rendez-vous des amis. C'était George qui avait assommé Amy avec la bouteille de bière. N'était-il pas employé dans une brasserie? Mais ce type de l'accusation avait fait remarquer qu'on pouvait se procurer n'importe où une bouteille de bière de l'évêque, et qu'il y en avait plusieurs dans la propre cuisine de Bert. Tout comme lui, George avait dû avoir une dispute avec Amy. Mais tandis que lui s'était contenté de la gifler, George l'avait cogné dessus avec la bouteille. Voilà ce qui s'était passé. Mais Bert ne pouvait pas le prouver. Et George avait été rechercher une vieille poule à lui, laquelle avait juré qu'il était avec elle à ce moment-là. Et c'était ce qu'ils appellent un alibi. On frappa à la porte et Joey alla ouvrir le guichet. « C'est l'aumônier qui vient te voir, mon vieux, » annonça-t-il. « Non, je n'y tiens pas, » dit Bert. Il ne me parlera que de la vie future et celle que je vis en ce moment m'apparaît suffisamment bonne. Bert passa le quart d'heure suivant à marcher de long en large dans sa cellule. Ils en faisaient des formalités pour cette libération. Avec ses fonctionnaires, c'était toujours pareil. Voyez la queue qu'il faut faire au bureau de chômage pour toucher ses 4 sous. Toujours la même chose, manque d'organisation. Ah, Enfin, voici qu'arrivait le directeur de la prison. Un type en gris avec une moustache blanche. Derrière lui, trois hommes en noir. Deux d'entre eux avaient les mains derrière le dos comme s'ils cachaient quelque chose. Et fermant le train, l'aumônier. Ces pasteurs, pas moyen de s'en dépêtrer. Mettez vos mains derrière le dos, je vous prie. C'était un des hommes en noir qui venait de parler. Joey se tenait près de lui. Burt sentit quelqu'un lui saisir fermement les bras au-dessus des coudes. On la lui serrait. Et Burt découvrit soudain qu'on la lui avait attachée derrière le dos. Un autre homme en noir lui mettait quelque chose sur la tête, quelque chose de laineux, une sorte de sac. Hé ! Voulut protester Burt Higgins. Mais il lui avait enfoncé le sac jusqu'au cou et il n'y voyait plus rien, tandis que sa protestation était étouffée. Mais il continua à entendre. L'aumônier était près de lui à présent. « Je suis la résurrection et la vie, » a dit le Seigneur. « Celui qui croit en moi, bien qu'il soit mort, vivra. »« Hé !» voulut de nouveau protester Burt. Mais personne ne lui répondit. Il se sentit poussé fermement en avant. Ses pieds marchèrent sur de la pierre, puis sur du bois. Le bois oscilla un peu sous ses pieds et on le fit s'arrêter. Au même moment, on lui enfila quelque chose sur la tête. Ça lui racla le cou en s'arrêtant sur ses épaules et un nœud dur vint se placer à gauche sous son menton. « Hé !» protesta Burt Higgins pour la troisième fois. Les mains qui le touchaient l'abandonnèrent. Il se sentit soudain seul. Un bruit de pas quelque part, une porte craqua. Dans les ténèbres, une voix cria. « Tenez, monsieur le directeur, cela vient juste d'arriver du ministère. » Le craquement de papier que l'on déplie, le directeur disait quelque chose. Burt Higgins poussa un soupir de soulagement. Ils avaient mis le temps, mais c'était ce qu'il attendait. Oui, c'était bien ça. On lui déliait les bras. On lui retirait la cagoule et devant lui, il voyait le directeur souriant. « Il s'en est fallu de peu, » disait-il, « mais votre grâce est enfin arrivée. George Butterworth a été arrêté de bonne heure ce matin. »« Que Dieu ait pitié de son âme, » dit Burt en suivant le directeur hors de la cellule. Se pouvait-il qu'il fût déjà à la porte de la prison ?« Tiens, les voilà !» Mon vieux, dit Joey, et Burt Higgins vit que le gardien lui tendait un col et une cravate. Mais d'abord, il lui fallait serrer la main du directeur. « Au revoir, Higgins, » lui dit celui-ci. « Au revoir, monsieur le directeur. » Il pleuvait, comme d'habitude, et les rues étaient sombres, grises. Ah, un tram. Il se fondait déjà dans le brouillard. Burt Higgins courut après lui. Ses jambes étaient comme ankylosées, mais par un suprême effort, il parvint à sauter sur le marchepied et trouva une place. Il était assis dans le wagon. Le temps passait. Il y avait un moment que le tram roulait, et Burt s'aperçut soudain qu'il était vide. Le conducteur, vêtu d'un imperméable, surgit du brouillard. « C'est le terminus, monsieur, » dit-il. « Le tram ne va pas plus loin. » Burt Higgins quitta le tram. Les rues étaient très sombres et le brouillard s'épaississait. Mais Burt voyait très nettement où il se trouvait. Il était à Westbury Terrace. Pourquoi était-il venu à Westbury Terrace ? La force de l'habitude, sans doute. Est-ce que la maison était toujours vide ou bien y avait-il un nouveau locataire? Il ne voulait pas emprunter cette rue si familière, mais ses pieds l'entraînaient en avant. Voilà la porte, toujours pareille, la Versailles. Il y avait des années qu'on ne l'avait repeinte. Mais les marches étaient bien propres, bien blanches. Qui avait pu les nettoyer maintenant qu'Amine n'était plus? Il poussa la porte et entra dans le vestibule. Il y avait de la lumière dans la cuisine et quelqu'un était devant la table de bois. C'était une femme et elle lui tournait le dos. Elle avait un rouleau à pâtisserie dans les mains et le faisait rouler, rouler. La femme se retourna et le regarda. Elle était tout en blanc, dans sa robe de mariée. Il y avait de la farine sur ses bras. « Hello, Burt !» dit Amy. « Je pensais que tu n'arriverais jamais. » « Oui, monsieur le coroner, » dit le médecin de la prison. La mort a été pratiquement instantanée. Le pouls avait déjà cessé de battre quand je me suis approché du corps. L'homme est mort sans s'en rendre compte. C'était le dernier matin, par Francis Beeding.